Radio Okapi. Journal présenté par Gisèle Cage.
Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous au quotidien avec l'actualité. Voici les informations essentielles de ce matin. Percée majeure à Doha, le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23 annoncent un cessez-le-feu. Hier, malgré les rumeurs de retrait des rebelles, une déclaration conjointe signée par Lawrence Kanyuka, porte-parole de la rébellion, confirme la fin des hostilités. La circulation à Kinshasa, un défi quotidien. Les habitants de Kinshasa doivent affronter des embouteillages monstres chaque jour entre les routes délabrées et les tronçons en réhabilitation. La mobilité urbaine est devenue un véritable calvaire paralysant les activités quotidiennes. Découvrez notre reportage exclusif dans ce journal. Libérer la CENI des pressions politiques et renforcer les lois contre la corruption. Lors d'un forum sur la corruption électorale tenu mardi à Kinshasa, l'Institut congolais de recherche sur la politique a proposé des mesures audacieuses. Invité de Radio Okapi, Albert Maloukissa, directeur de recherche du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli, partage les motivations derrière ces recommandations. Découvrez ses perspectives dans ce journal. Nous ouvrons ce journal par les négociations en cours à Doha. Une avancée significative a été constatée dans le pourparler entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AFC M23, alors que plusieurs sources rapportaient hier le retrait de la délégation rebelle des discussions. Une déclaration conjointe signée par Lawrence Kanyuka, porte-parole de la rébellion à Goma, annonce aujourd'hui que les deux parties s'engagent à mettre fin aux hostilités et à instaurer un cessez-le-feu effectif. Cet engagement pris sous la médiation du Qatar témoigne d'un esprit de compréhension mutuelle. Martial Papi Moukeba nous en livre les détails.
À l'issue des discussions qualifiées de franches et constructives, les deux parties se sont engagées à œuvrer en faveur d'une trêve devant conduire à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, précisent les documents. D'un commun accord, elles affirment leur attachement à une cessation immédiate des hostilités, rejettent catégoriquement tout discours de haine et d'intimidation et appellent les communautés locales à respecter ces engagements. Elles conviennent également que le respect de ces engagements constitue une étape clé vers un dialogue constructif en vue d'un retour durable à la paix en RDC et dans la région. La déclaration précise que ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que sur les modalités concrètes des sorties des conflits dans les territoires de l'Est du pays. En fait, les deux parties s'engagent à respecter immédiatement ces engagements tout au long des pourparlers jusqu'à leur conclusion. Elles appellent les peuples congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à relayer ces messages d'espoir et de paix. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Et puis le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a salué l'accord annoncé entre la RDC et le M23 AFC visant à instaurer une trêve et un cessez-le-feu, ouvrant la voie à un dialogue pour rétablir une paix durable dans l'est du pays. C'est une étape cruciale pour mettre fin aux violences, a-t-il écrit sur son compte X. Il a également annoncé qu'il se rendra dans la région de ce vendredi pour exprimer son plein soutien à ses efforts facilités par le Qatar ainsi qu'à ceux des organisations régionales, l'EAC et la SADC. En lien avec les discussions en cours à Doha entre le délégué du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC M23, les pourparlers avancent vers la paix. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a confirmé cette avancée hier soir, mercredi, lors de l'émission Dialogue entre Congolais sur Radio Okapi. Écoutons Patrick Muyaya dans cet extrait sélectionné par Guy Maté.
Et il ne m'appartient pas de parler de ce qui se passe à Doha dès lors qu'il y ait... C'est un processus qui est organisé autour d'une médiation et je pense que la médiation qatari pourra, les moments venus, et ça ne saurait plus tarder, communiquer pour vous permettre d'être édifié. Et après la communication, on pourra peut-être venir pour d'autres interviews où nous pourrons vous donner davantage d'éléments. Parce que lorsque les discussions ont été convenues, lorsque le président de la République autour de l'émir du Qatar a rencontré le président Kagame, il y a des choses qui ont été convenues. Et dans cet ordre, les choses se font. Je vous ai dit tout à l'heure que les discussions n'étaient pas infructueuses telles que vous les dites. La question pour nous, n'est pas de dire qui y est ou pas. La question pour nous, c'est de savoir si nous avançons dans le sens de la paix ou pas. Et je pense que dans ces sens, nous avançons dans les cas d'un processus sensible.
Pendant ces temps au Nord Kivu, dans la zone contrôlée par le rebelle, près d'une cinquantaine de jeunes ont été enlevés de force de leur domicile dans la nuit de mardi au mercredi 23 avril et emmenés vers une destination inconnue. Plusieurs sources locales dans les territoires de Nyiragongo dénoncent ces actes. Les notables de Nyiragongo expriment leur vive inquiétude face aux graves exactions et violations de droits de l'homme perpétrées quotidiennement par le rebelle du M23 dans cette région proche de Goma. Parmi les personnes enlevées depuis des semaines, le chef du groupement Roussayou Janvier Bangoumia reste introuvable, plongeant la communauté dans un profond désarroi. Le point avec Élise Kavira.
D'après nos sources, l'opération de la nuit dernière s'est déroulée tard, pendant au moins 4 heures du temps. Une cinquantaine de jeunes ont été pris dans le village Bouhama, groupement Kibati, affirme un notable de la région. Ces jeunes gens de différents âges auraient été embarqués dans un camion, puis conduits probablement vers Rutshuru, renseignent nos sources. Indignée, la population de cette région a lancé des alertes et dénonciations tôt le matin d'hier, mercredi, pour condamner cet énième cas d'enlèvement de la population. Des notables de Nyiragongo se disent très inquiets de la chasse à l'homme qui sévit dans les quartiers et villages perpétrés par des hommes en armes et en tenue militaire. Nos sources déplorent également la destruction méchante par des militaires rebelles des maisons des paisibles citoyens enregistrées depuis quelques semaines dans les villages Mutaro en groupement Kibati ainsi que dans les villages Kalangala et Rukorwe en groupement Rusayu. C'est à une dizaine de kilomètres au nord de Goma, territoire de Nyiragongo. Selon nos sources, après avoir délogé les habitants de ces villages au motif que leurs maisons serviraient de ravitaillement aux Azalendo qui sont retranchés dans le parc des Virunga, les rebelles du M23 procéderaient à la destruction de ces maisons situées près du parc.
Il faut également noter que dans les territoires de Lubero, toujours au nord Kivu, la situation devient critique. 4 civils ont été pris en otage par des présumés rebelles des ADF le week-end dernier à Katanga et Muponda, deux villages du secteur de Bapéré. Selon Désiré Imaya, l'un des chefs coutumiers du groupement des Baridiers, ces personnes ont été enlevées dans leur champ. Il appelle à une intensification immédiate des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la zone pour mettre fin aux attaques récurrentes des rebelles des ADF. Parlons toujours sécurité, cette fois-ci en Ituri, des leaders du groupe armé Codeco et un délégué de la communauté Lori, représentant le peuple Lendu, ont rencontré mardi dernier en Ouganda le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Mozi. Le retour de la paix dans le territoire de Djougou était au cœur même de leur discussion. Selon un communiqué de l'UPDF, cette rencontre marque une étape cruciale dans les efforts de paix régionaux en cours. Martial Kizabia Mungu nous en parle.
Selon nos informations, cette rencontre a eu lieu précisément au siège du général Museveni Building à Entebbe, en présence du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Mozi Kainerugaba et d'autres hauts officiers des UPDF. Sur invitation du gouvernement ougandais, la communauté Lori a été représentée par son vice-président Etienne Ndouji, tandis que Alfred Debati s'est présenté comme un des commandants de la CODECO. Selon Ndouji, leurs échanges ont tourné sur les mécanismes à mettre en place pour éviter des confrontations entre la CODECO et les UPDF déployés en Djougou, comme cela a été le cas tout au long du mois de mars dernier dans la région de Fataki, causant plusieurs morts des deux côtés en plus des victimes civiles. Pour l'armée ougandaise, il s'agit d'une étape importante dans les processus de paix à l'Ituri. Cependant, dans sa communication ce mercredi, l'état-major général du groupe armé CODECO dit non seulement qu'il n'est pas au courant de cette rencontre et qu'il n'a jamais envoyé une quelconque délégation à Entebbe, nous n'avons pas eu la réaction de FRDC à ce sujet. Bounia, Martial Kizabia Bongo, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le lancement du projet de sensibilisation à la santé mentale et de soutien psychosocial pour la paix en RDC hier mercredi à Kinshasa. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations dans un contexte sécuritaire critique. Greta Lulendo, reportage.
Ce projet qui va débuter dans la province du Tanganyika la semaine prochaine couvrira 48 villages dans les zones de santé de Niemba, Nyunzu et Kalemi avant de se poursuivre dans d'autres provinces touchées par la guerre. Pourquoi le choix du Tanganyika ? Ryan Rider, coordonnatrice du programme de santé mentale et soutien psychosocial, répond.
Tanganyika aussi est affecté par...
Tanganyika aussi est affectée par le déplacement, donc le retour des ménages d'origine, mais c'est aussi le besoin dans cette région, surtout parce qu'il y a moins d'acteurs comparés à d'autres régions.
Ce programme est financé par la coopération allemande à travers la banque de développement KfW. Le coût est évalué à plus de 19 millions d'euros. Kerstin Labs, directrice du bureau de KfW, explique la motivation du gouvernement allemand.
Ce projet faisait partie de la coopération bilatérale entre Allemagne et la RDC. Une des priorités de cette coopération est la promotion de la paix et cohésion sociale en RDC.
Ce programme de 5 ans bénéficiera à plus de 150 000 personnes par la mise à disposition des services à base communautaire, des formations pour le personnel de santé local et par la création de centres de cohésion sociale.
Comme annoncé dans les titres, sur Kile à Kinshasa est devenu un véritable casse-tête. Les 4 districts de la ville de Tchangou, Funa, Moamba et Lukunga sont confrontés à des embouteillages monstres qui paralysent la ville et compliquent considérablement les quotidiens des Kinois. Cette congestion routière entraîne frustration, retard et baisse de productivité pour les étudiants, élèves et travailleurs. Avec plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa est une ville saturée dont les infrastructures routières peine à suivre la croissance démographique. Entre routes en mauvais état et tronçons en pleine réhabilitation, la mobilité urbaine est devenue un véritable calvaire. Benjamin Moudoumbi signe ce reportage.
Les principaux points chauds sont notamment Limba Foire et Super Limba, du boulevard Triomphal à Sindoué, pont Kabu pour ceux qui empruntent Limité, Kitambo Magasin, et ceux qui prennent UPN via Nguma ou encore DGC via Centre Supérieur Militaire en passant par l'avenue des Écuries. Pompage Mimosa et l'avenue du Tourisme sont également des axes où la circulation est quasiment impossible pour les fils qu'atteindre Kitambo Magasin. Ces jours-ci, dépasser Kitambo relève d'un exploit. Pour les étudiants, ces bouchons interminables sont un obstacle majeur à la ponctualité et à la concentration pendant les cours. Témoignage.
Bon, ça nous affecte parce qu'on peut genre avoir un cours même à 7h30, on s'est arrivé même à 5h, on a essayé à la fac même à 8h.
Dès qu'il est 7h, si je sors, en tout cas je serai à la fac ou plus tard à 11h à cause des embouteillages.
Les travailleurs ne sont pas en reste. Cet homme travaille dans les secteurs publics et l'esprit me sent ras-le-bol.
Une fois trouvé le transport, vous arrivez au travail déjà épuisé et cela a un impact vraiment négatif sur les même.
Les embouteillages à Kinshasa ne sont pas seulement une nuisance. Ils ralentissent le développement de la ville et affectent profondément la qualité de vie de ses habitants, affirme un expert. Face à cette situation, les Kinois réclament des solutions concrètes et durables.
Dans la même veine, pour lutter contre les embouteillages, le ministre provincial de Transport et Voies des Communications du Congo central a décidé de délocaliser la barrière de contrôle située à Ponzo, à l'entrée de la ville de Matadi, en provenance de Kinshasa. Cette barrière est désormais relocalisée au village Kitandila, dans le territoire de Songololo, à environ 10 km de Matadi, sur la route numéro 1, axe Matadi-Kinshasa. Selon Edouard Samba, la présence de cette barrière à Ponzo était l'une des principales causes des embouteillages monstres enregistrés dans la ville portuaire. Il affirme que cette relocalisation permettra non seulement de mieux contrôler les mouvements des véhicules entrant à Matadi, mais aussi de créer une zone tampon facilitant les opérations de sécurité sans perturber la circulation urbaine. Revenons à Kinshasa pour parler du démantèlement d'un réseau des falsificateurs de permis de conduire, vignettes et cartes roses. Cet agent de l'administration de transport ont été arrêtés à cet effet. C'est le ministre de transport qui l'a annoncé dans un communiqué rendu public mardi dernier. Ces documents précisent que leur arrestation a eu lieu à la suite d'une enquête lancée par le vice-premier ministre des transports. De son côté, le ministre de la justice a ordonné des poursuites judiciaires en procédure de flagrance. Les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres réseaux. Depuis le week-end dernier, les sinistrés de pluies auparavant hébergés dans des écoles ont été relogés ailleurs. Et c'est notamment le cas des personnes de l'Institut Lumumba à Limité, de l'Institut Technique Industriel Kitomessa à Kisenso. Certains ont été transférés au stade Tata Raphaël, tandis que d'autres au terrain municipal de Bandalungwa. Dans quelles conditions ces personnes sont-elles installées et comment se passe leur prise en charge? Kaki Akewa et Nancy Ntambo nous éclairent sur la situation des CRE logés à proximité de la maison communale de Bandalungwa. Suivez.
Le terrain municipal de Bandalungwa va au finish accueillir près de 4000 sinistrés. À notre passage, Patricien Gongo, ministre provincial de la Santé, est venu se rendre compte de la situation de ceux qui y sont déjà. Il explique comment cela s'organise.
Les tentes ici sont encore en train d'être montées pour que nous puissions recevoir plus de 3000 personnes. Vous allez trouver un centre de santé avancé. Des cas complexes, on les réfère aux établissements des soins de santé et l'hôpital Kalimelembe pour les enfants.
Malgré les conditions difficiles, plusieurs sinistrés expriment leur soulagement de recevoir de l'aide. Toutefois, il ne manque pas de formules de plaintes.
La nourriture arrive, mais il y avait un tel désordre dans la distribution que certains ont manqué. Il a fallu que les femmes s'énervent pour qu'on arrive à la solution actuelle de la répartition par local.
Patricien Gongo affirme que les autorités sont à l'écoute. C'est ainsi que des améliorations ont été observées quant à la distribution de biens désormais confiés au chef des quartiers.
Il y a quand même des fraudeurs. Nous avons mis un système de détecter ces fraudeurs-là par la communauté. Nous les organisons par quartier. Ce sont des chefs des quartiers qui viennent prendre la nourriture pour aller donner à ses administrés.
Les besoins sont nombreux. C'est ainsi que certaines structures viennent en renfort, cas notamment de certaines ONG.
Actualité internationale.
L'insécurité et les difficultés d'accès à Gaza ont contraint les partenaires humanitaires à fermer des sites de nutrition ou à perturber considérablement la fourniture des services, alors que la situation alimentaire dans l'enclave palestinienne continue de se détériorer rapidement, ont prévenu mercredi des agences des Nations Unies. Selon le Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA, le blocus de l'aide depuis 52 jours empêche l'entrée de tout aliment supplément nutritif ou aliments thérapeutiques pour les traitements de la malnutrition. Sur le terrain, les partenaires du groupe Nutrition ont diagnostiqué au cours de deux premières semaines d'avril près de 21 000 enfants, 641 souffrent de malnutrition aiguë modérée et 64 de malnutrition aiguë sévère.
L'invité.
L'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebouteli, a organisé mardi dernier à Kinshasa un forum sur la corruption électorale. Invité de Radio Kapi, le directeur de recherche du pilier gouvernance à l'Institut Ebouteli explique que ces forums visaient à améliorer l'organisation des prochaines élections générales en RDC. À cet effet, il propose notamment la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante pour la libérer des pressions politiques ainsi que le renforcer des dispositifs juridiques afin de lutter contre les actes de corruption. Albert Maloukissa s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Albert Maloukissa Jolino.
Bonjour, Blaise Ndongala.
L'Institut de recherche Ebouteli a organisé un forum sur la corruption électorale. Quel est le sens que vous donnez à cette thématique, corruption électorale?
Depuis plus d'une année, Ebouteli a mené des recherches sur la corruption électorale qui nous a permis justement d'élaborer un rapport qu'on a baptisé Corruption électorale sans frontières en RDC. Nous disons sans frontières parce que tous les acteurs clés du processus électoral semble considérer les élections comme un business. Donc on peut parler d'élections business en RDC. Au-delà des enjeux politiques, les acteurs cherchent à en tirer profit sur le plan financier. Il y a qui perçoivent beaucoup d'argent dans ce qu'il y a comme transactions électorales. Et c'est ce que nous avons vécu même avec les dispositifs électoraux de vote s'étaient retrouvés entre les mains des candidats. Mais aussi pour passer député national provincial, au gouverneur, sénateur, il y a des candidats qui déboursent beaucoup d'argent. On a évalué selon les enjeux, ça peut nager entre 40 000, 250, 350 000 dollars, voire 400 000 dollars. Il y a des candidats qui ont voyagé avec des millions de Kinshasa vers l'intérieur du pays pour corrompre les électeurs, surtout les députés provinciaux.
Quand vous parlez de corruption, vous avez des preuves de ces actes, vous et Ebouteli?
La corruption, c'est un phénomène occulte. Mais nous avons eu la possibilité d'avoir accès à certains éléments. Par exemple, vous savez, il y a des candidats, quand ils remettaient de l'argent aux députés provinciaux, par exemple, ou à certains acteurs, mais ils les filmaient. Il y a même des dossiers qui ont été gérés au niveau de certaines assemblées provinciales.
Hein. Quelles sont les organisations ayant pris part à ces assises?
Cette recherche a été menée dans le cadre du consortium Le Congo n'est pas à vendre. Un consortium qui lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Donc, mais on avait aussi invité la CENI. La CENI était venue. On a pu débattre de nos conclusions. Nous allons avoir une séance plus approfondie avec certains responsables de la CENI pour qu'ils puissent prendre connaissance et évidemment nous apporter des éclaircissements à propos des points liés à la corruption électorale au niveau de la CENI. Mais il y a eu aussi pas mal d'organisations de la société civile non membres du CENPAV qui étaient présents. Les discussions, les échanges qu'on a eus ont pu vraiment démontrer que pour les prochains processus électoraux, on doit renforcer les dispositifs juridiques, voire de gouvernance, pour la lutte contre la corruption électorale.
Quelles sont les grandes recommandations issues de ces forums?
Au niveau de la gouvernance de la CENI, nous pensons qu'il faut renforcer davantage l'autonomie de la plénière en retirant les membres du bureau de sa composition. Les membres du bureau ne peuvent pas être jugés partis. Le président de la CENI ne peut pas présider la plénière. Aussi, qu'il faut renforcer les audits. La CENI est généralement soumise à l'audit de la Cour des comptes. Mais nous pensons que c'est important qu'un cabinet d'audit indépendant puisse également suivre de près les comptes de la CENI, qui n'est pas aussi exemplaire en matière de transparence. Nous pensons aussi que la justice électorale devrait bien fonctionner. D'abord, au niveau des juges de la constitutionnelle, il faudra qu'il y ait vraiment des critères clairs, transparents pour leur nomination et essayer de rendre également cette cour plus indépendante au lieu que ça soit à la solde des acteurs politiques pour les écoles. Lorsqu'il s'agit de désigner des bureaux de vote, en tout cas les écoles où les promoteurs sont des candidats, la CENI devrait se réserver de pouvoir les intégrer dans les effectifs des bureaux de vote parce que les promoteurs en abusent généralement en exerçant une pression sur les enseignants, à leur solde soit affectés dans des bureaux, dans des circonscriptions qui les arrangent.
Quel est l'appel que vous faites à la communauté internationale?
Si on se considère comme gendarme de la démocratie et malheureusement on n'a pas une certaine impartialité, on fait les doubles standards. En ce moment-là, ça ne peut pas aider à la redevabilité politique. Voilà, les dirigeants qui sont élus grâce à la corruption ne se considèrent pas comme étant redevables vis-à-vis des citoyens. C'est ça l'impasse de la gouvernance au Congo.
Monsieur Albert Maloukissa Jolino, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Notre invité Albert Maloukissa répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. C'est ainsi que se clôture ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Espérons vous retrouver pour une nouvelle édition. À très bientôt.